La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Avec le rédacteur en chef du JDD magazine, Loïc Guillot, le chef du service politique d'Europe 1, Louis de Raguenel, et le grand reporter de Paris Match, François Delabarre. Alors, concernant les retraites, nous avons eu un échange interposé à la télé l'autre jour lors d'un débat entre le RN et LFI. Écoutez d'abord Jordan Bardella tendre la main à l'insoumise Mathilde Panot.
Et moi, je souhaiterais peut-être là que les oppositions se mettent d'accord et viennent avec nous. Et je pose la question d'ailleurs à Madame Panot. Tout le monde aura compris ce soir qu'on ne partira pas en vacances ensemble. Mais est-ce que dans l'intérêt du peuple français, est-ce que dans l'intérêt de nos concitoyens les plus modestes, on est capable de signer ensemble un texte qui mettrait cette réforme des retraites à l'avis du peuple français par un référendum?
Voilà, et la réponse ne se fait pas attendre.
Nous sommes 151 à la NUPES, vous êtes 89 au RN, donc comme d'habitude, lorsque nous avons examiné des motions de censure, c'est celle de la NUPES qui va être examinée en premier et celle du RN qui arrive ensuite à la traîne.
Mais que vous ne voterez
qui
pas
ne sert
du
pas,
RN, parce que vous êtes
qui
sectaire.
Qui ne sert plus à rien, puisque
moi, je peux voter
c'est la,
la
première
vôtre,
qui est...
On est d'accord, je ne regarde pas la couleur politique, vous, vous ne pourriez pas...
Donc, merci, mais non merci, c'est donc une opposition non unie, mais à la limite, tant mieux, ça veut dire que c'est pas de l'obstruction à l'obstruction, ça veut dire que chaque couleur politique, quelque part, a un sens dans ce Parlement, non? Est-ce qu'on peut voir les choses? J'essaie de me faire l'avocat du diable dans cette histoire. Le mic.
Ouais. Alors...
Joker.
Joker, oui, non, Là, c'est sur la motion de censure, mais sur le référendum et l'idée de référendum, ils ont l'air plutôt d'accord, en revanche. Donc,
on va voir le prochain échange.
Ouais.
Louis, Louis est moins convaincu.
Ce débat était extrêmement tendu, déjà. Il y a une scène, pour que les auditeurs sachent. Au début, Mathilde Panot a refusé de serrer la main de Jordan Bardella. Donc l'ambiance était effectivement particulièrement
animée. C'est pas la première fois qu'on voit ça.
Animée. Alors c'est pas la première fois, mais bon, c'est toujours des gestes qui heurtent ou au moins qui surprennent. Le deuxième élément.
Juste une petite incise, parce que j'ai quelques années de plus que vous. J'ai vu quand même ce qui est le plus, et les auditeurs doivent le savoir aussi, c'est que quand vous avez des débats dans les studios télévisés ou en studio radio, où il s'écharpe, on a l'impression que c'est les pires ennemis du monde, puis il sort du studio, et là, il se sert à la main, alors comment va ta fille, alors comment va
absolument
ta femme,
etc. Alors, et ça, même à la buvette de l'Assemblée nationale. Il y a des ministres qui vous disent, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux députés qui vous disent, ah c'est sympa, je me suis retrouvé à une table, et puis je me suis rendu compte que c'était que des députés RN, c'était très sympathique. Et donc ils se disent, ah bah zut, j'avais pas vu le truc.
C'est ça, il faut raconter de temps en temps les coulisses qui sont...
ce qui ne veut pas forcément dire qu'il y a de l'insincérité dans l'hémicycle, ça veut dire aussi qu'on a le droit de s'écharper et par ailleurs de s'apprécier humainement, même
donc
si
elle pouvait lui serrer la main, en gros.
S'agissant quand même de la NUPES, et globalement...
Mais je ne sais pas pourquoi ça ne m'étonne pas de la part de Mathilde Panot.
Il y a une rigidité un peu plus forte que dans d'autres partis politiques. Ensuite, si on parle du fond, il y a la motion de censure, et il y a la proposition de Marine Le Pen et de la NUPES de demander un référendum. Sauf qu'en fait, techniquement, c'est totalement impossible, parce qu'il faudrait d'abord un vote de l'Assemblée, puis un vote du Sénat, et enfin... La proposition de référendum doit être soumise au président de la République.
Bien sûr.
Donc il faudrait qu'Emmanuel Macron dise « Ah bah très bien, super, on va faire un référendum ». Objectivement, quand on voit ce qu'Emmanuel Macron est en train de faire avec la réforme des retraites, je crois que l'idée d'un référendum ne lui effleure même pas l'esprit.
Ouais.
Ensuite, s'agissant de la fin, comment ça va se terminer cette histoire de réforme des retraites? Donc il y aura, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, il y aura une procédure accélérée avec l'article 47.1 de la Constitution, un débat en 20 jours, qui va globalement favoriser l'explosion de l'étude des amendements, avec il y a plus de 7000 amendements qui ont été déposés. Donc globalement, on va parler de tout sauf du fond, on va parler que de choses complètement anecdotiques. Ça va faire le jeu du gouvernement.
C'est-à-dire qu'on ne va pas examiner les 7000, on va en examiner genre 15.
Mais du coup, les parlementaires vont passer quand même beaucoup, beaucoup de temps à examiner des amendements qui, globalement, ne sont pas forcément en lien direct avec
le texte. Exactement.
À la fin, gouvernement va dire, regardez, on a proposé, nous, du temps pendant 20 jours pour qu'on puisse parler du fond. Regardez de quoi on nous a parlé. On nous a parlé d'amendements qui n'ont complètement rien à voir. Et à la fin, quand même, ce qui est intéressant, et ça rejoint les questions de mobilisation de l'opinion publique, c'est que le gouvernement, aujourd'hui, en l'état, n'a pas la majorité pour faire adopter le texte en dépit de cette procédure 47.1. Et donc, moi, je ne peux pas prédire l'avenir, mais l'hypothèse de l'utilisation par le gouvernement de l'article 49.3 de la Constitution pour forcer l'adoption du texte, j'ai l'impression qu'on s'en rapproche de plus en plus pour une raison très simple. Il y a encore deux semaines, il y avait à peu près 7 à 10 députés LR qui ne voulaient pas voter le texte. Aujourd'hui, on est entre 15 et 20. Au sein de la majorité présidentielle, il y a des députés de plus en plus nombreux qui ne veulent plus voter le texte. Maintenant, on est à une grosse dizaine. Et donc, le gouvernement, aujourd'hui, à ce stade, en tout cas, n'est pas
donc,
en majorité.
Il y a la possibilité que ça ne...
Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, et ça, c'est des choses qu'on observe assez rarement, c'est que globalement, vous avez beaucoup d'électeurs de droite qui, aujourd'hui, ne soutiennent pas la réforme des retraites, alors que pourtant, dans le fond de leur conviction, ils ont voté pour Nicolas Sarkozy, puis pour François Fillon, puis, alors ils étaient moins nombreux, pour Valérie Pécresse.
Mais
il y a une espèce de, à la fois de rapport au travail qui a changé, de réflexe pavlovien contre Emmanuel Macron. Et donc là, aujourd'hui, c'est très compliqué pour le gouvernement qui, voilà, et avec des mobilisations.
Oui, c'est complètement paradoxal. Je vois très bien le type d'électeurs. C'est ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron parce que finalement un peu par défaut, et puis aujourd'hui qui refusent sa
réforme. Et pourtant, Emmanuel Macron, souvenez-vous, pendant la dernière présidentielle, c'était un des seuls éléments qu'on peut retenir de son programme pour convaincre les derniers électeurs de droite, libéraux, centre-droit, qui savaient pas très bien pour qui voter. Il fait cette annonce retraite à 65 ans pendant la présidentielle.
Et donc, un programme de droite, en fait.
Absolument, puisque ça avait été porté d'ailleurs précédemment par François Fillon, Nicolas Sarkozy.
Mais paradoxalement, on lui reproche autre chose que la réforme des retraites, on a bien compris. Alors, on critique beaucoup le gouvernement donc, et cette réforme de part et d'autre, en prenant en compte les métiers pénibles, les seniors, les jeunes qui vont devoir travailler plus longtemps, les annuités sont allongées, mais encore aussi les femmes. Et ça, eh bien, sur la question des femmes, la Première ministre Elisabeth Borne a voulu clairement répondre.
Je ne peux pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Au contraire, nous réduisons les inégalités inacceptables entre les femmes et les hommes au moment de la retraite. Nous protégeons les femmes qui ont des carrières incomplètes et hachées. Les femmes seront les premières bénéficiaires de la revalorisation des petites pensions.
Oui, vous vouliez dire ?
Non, je trouve que elle répond un peu à côté du sujet. La question qui était posée à Elisabeth Borne portait sur la question des mères de famille qui voient avec la nouvelle réforme les trimestres dont elles bénéficient normalement et qui sont un peu dilués avec l'âge de départ qui est repoussé. J'essaie de simplifier, je sais que ce n'est pas forcément très compréhensible. Mais si on rentre trop dans la technique, après on perd un peu tout le monde. Et donc Elisabeth Borne répond en expliquant que les femmes seront les premières bénéficiaires des petites retraites. En fait, ce qui pose un autre sujet, c'est que c'est le symptôme des inégalités. C'est-à-dire que si les femmes sont les plus concernées par les petites retraites, c'est bien qu'il y a un problème. Et ce que je trouve là pour le coup vraiment gênant, et c'est sans doute un des sujets sur lequel le gouvernement va devoir évoluer, c'est que clairement la question de la natalité, la question d'aider les femmes et les hommes à gérer au mieux leurs enfants et que tout ne repose pas sur les femmes est au cœur de cette retraite. Parce qu'on voit bien, simplement si on revient un tout petit peu en arrière, en 1960 il y avait 4 cotisants pour un retraité.
Et on est à 1,7.
Aujourd'hui on est, voilà, exactement. Et donc je crois que un des enjeux les plus importants et qui ont été complètement éclipsés dans cette réforme et dans ce débat, c'est la question du nombre de cotisants par retraité. Et donc, on en vient à la question de la politique familiale, à la question si on parle de solidarité entre les générations, eh bien, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la natalité est trop faible. Et c'est un vrai sujet.
Ça risque pas d'encourager la natalité, cette réforme, puisque vous avez commencé à le dire, Louis, mais effectivement, les femmes qui ont eu des enfants, normalement, devraient pouvoir partir à 62 ans parce qu'elles bénéficient de trimestres supplémentaires, mais là, elles ne pourront pas, elles vont partir à 63, 64 ans, plutôt 64 d'ailleurs même, et y a une vraie inégalité, c'est comme si on neutralisait avec cette réforme l'avantage que les femmes avaient avec ces trimestres supplémentaires. On les fait disparaître au final, donc on accentue les inégalités parce que les femmes partaient déjà plus tard que les hommes à la retraite, en moyenne. Les femmes, c'est 63,2 ans pour la retraite, les hommes, c'est 62,7. On va encore accentuer ça en leur faisant perdre le bénéfice de ces trimestres.
Ouais. Et il y a des pays d'ailleurs où c'est femmes et hommes, d'ailleurs il y a deux âges différents de départ à la retraite. C'est le cas en Pologne, par exemple, où les hommes partent à la retraite à 65 ans et les femmes partent à 60 ans. Pourquoi ? Parce que la femme a cette chose incroyable qui est de donner la vie, voilà, qui n'est qui n'est réservée qu'à elle.
Et puis une autre petite chose, Elisabeth Borne dit que les femmes vont être les premières à bénéficier de l'amélioration des petites pensions, mais il faut dire aussi qu'elles partent de très loin par rapport aux hommes. Les pensions des femmes sont 40% inférieures à celles des hommes, donc les revaloriser plus que celle des hommes ne rattrape pas de toute façon cet écart. Alors l'écart va être un tout petit peu gommé du fait de l'allongement de la durée de cotisation, mais les inégalités restent colossales avec cette réforme.
Allez, un petit dernier sonore. Je vais vous passer Anne Hidalgo, parce que bah alors vous savez que le PS est en congrès, dans l'ambiance qu'on a dite. Anne Hidalgo, je rappelle, 2,1% à la présidentielle, elle dit quoi? Bah, elle dit que la direction du PS est nulle.
C'est vraiment catastrophique, quoi. Et en plus, enfin, je suis choquée parce que on est beaucoup d'élus à organiser des élections. Une semaine après le vote, on est un foutu d'attester et les autoproclamations, ça marche pas. Moi, je dis direction collégiale ou revoter. Voilà.
Ah, voilà. Ça, c'est le petit mot d'Anne Hidalgo.
Deux choses qui ne marchent pas, parce que revoter, vu le bazar que ça a été, je ne vois pas bien l'intérêt de refaire la même chose. Les directions collégiales, ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc, je ne vois pas comment ils pourraient diriger à plusieurs. Donc, sa solution paraît fantaisiste.
Alors, ce que je trouve...
Oui, de Ragnel.
Il y a deux éléments. Il y a un argument de qui on est pour parler. Globalement, compte tenu, vous l'avez rappelé, de son score calamiteux à l'élection présidentielle... Je trouve que c'est assez audacieux, assez téméraire de donner des leçons sur ce qu'il faudrait faire ou pas faire. Et le deuxième élément, et je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu triste, c'est de combien de personnes ont voté à cette élection. Il y avait 23 000 votants pour savoir qui va être le premier
700 votants,
secrétaire du Parti Socialiste. On parle d'un échantillon qui est infinitésimal.
Et pourtant, regardez la place qu'on donne dans les médias à ce Parti Socialiste.
Alors, au Parti Socialiste, objectivement un peu moins. Maintenant, c'est dans le cadre de la NUPES, donc avec le Parti Socialiste, les écologistes, la France Insoumise.
C'est un totem quand même, le Parti Socialiste. On voit ce que c'est devenu, mais...
Parce que c'est un parti...
C'est dans l'histoire de France, le Parti Socialiste.
Peut-être qu'il est amené à réexister après la succession d'Emmanuel Macron, j'en sais rien. Mais ce qui est vrai, c'est que oui, ça a compté. Il y a eu quand même au moins deux présidents, François Mitterrand et François Hollande.
Merci beaucoup à vous trois et merci en particulier à François Delabarre qui nous a livré son témoignage que vous pouvez lire dans Paris Match. Après le journal de 19h, le mathématicien médaille Field Cédric Villani. Dans les vendredis thématiques, on s'intéresse à l'IA, l'intelligence artificielle, celle du robot HAL dans 2001 de Stanley Kubrick. Celle aussi qu'il faudrait cadrer, encadrer, légiférer. Cédric Villani avait conduit une mission parlementaire à l'époque sur le sujet. 19h30, les grands témoins de l'actualité. L'ambassadeur de Turquie en France, Ali Onaner, quel rôle de son pays dans le conflit russo-ukrainien, quelle position dans l'OTAN, quelle stratégie envers l'Europe et les alliés. On en parle tout à l'heure. À tout de suite.